Merci beaucoup, Pasteur Antonio, qui est mon mentor, donc je suis content d'être ici parmi vous. Donc, je ne suis pas un étranger ici à Troyes, je suis chez moi. Gloire au Seigneur. Et je rends grâce à Dieu pour l'interpellation et ces messages que nous recevons, que nous avons reçus de la part de la sœur Daniela. C'est vrai qu'il y a des tas de choses que j'ai demandé à Dieu et puis j'ai vu bel et bien son exaucement. Et même ce que je vais vous partager ce matin, c'est en tout cas tout ce que Dieu m'a enseigné qui a permis d'arriver justement à ces résultats-là. Et donc je pense que je souhaite que Dieu nous fasse grâce d'être un peu plus attentif, parce que de tout ce que je vous ai partagé par le passé, ça c'est beaucoup plus important. En fait, c'est sur l'autorité spirituelle, parce que en tant qu'enfant de Dieu, nous passons beaucoup de temps à supplier le Seigneur, à commander quelques grâces, mais parfois il veut que on puisse prendre autorité. Et c'est sur cela que je vais nous entretenir ce matin. Et j'ai béni le Seigneur pour ces messages-là. Donc, rendons grâce. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te remercions parce que nous sommes ton peuple, nous sommes tes enfants. Tu as des choses merveilleuses pour nous. Et ce matin, tu veux nous entretenir sur l'autorité spirituelle. Dispose nos cœurs pour comprendre. Ouvre notre entendement, Seigneur, pour saisir ce que tu veux nous enseigner ce matin. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, le thème, c'est l'autorité spirituelle. Donc, sur ce thème, nous allons voir 4 points précisément. Le premier point, ce sera la différence entre le pouvoir et l'autorité. Le deuxième point que nous allons voir, c'est par rapport à la chute de l'homme, parce que Dieu nous a créés pour régner, pour dominer, pour travailler avec lui ensemble. Lui, il a le pouvoir, mais il nous délègue une partie de ce pouvoir, c'est ce qu'on appelle autorité. Mais l'homme a chuté. Suite à la chute, il a perdu donc son leadership sur la création, sur les bêtes, sur les poissons, sur les éléments de la nature. Et Jésus est venu nous rétablir dans nos fonctions initiales. Mais il y a des conditions pour que, en tant qu'enfant de Dieu, on puisse réellement exercer l'autorité. Donc c'est cela que nous allons voir ensemble pendant les quelques minutes donc qui vont suivre. Vraiment, soyez attentifs parce que ce sont des choses que Dieu m'a aidé à comprendre. Et j'ai vu que Dieu est vraiment comme le frère nous a dit. Il appelle même à l'existence des choses qui n'existent pas. Et donc, c'est vraiment souhaitable qu'on soit attentif. Donc, déjà, nous allons voir le premier point, qui est la différence entre l'autorité et le pouvoir. Quand nous parlons de pouvoir dans la Bible, en fait, on fait allusion à la capacité de faire des choses par soi-même. Et c'est un peu synonyme de puissance, de force. Et quand nous parlons d'autorité, c'est plutôt le pouvoir délégué par Dieu aux hommes pour faire ce qu'ils sont par nature incapables de faire. Et si vous voyez beaucoup de chrétiens, attendez, j'ai le document de notre frère. Si vous voyez beaucoup de chrétiens qui ont peur, qui même en priant n'arrivent pas à croire, c'est parce que justement on ne comprend pas ce premier point. Vous voyez, l'exemple que je peux nous prendre pour bien comprendre ce que je suis en train de dire. Vous voyez, lorsque vous voyez un policier, il suffit pour le policier de lever la main et il mobilise des tas de véhicules. Et aussi des gens qui sont dans ces véhicules, il y a là-dedans des gens puissants, des gens importants. Même le chef d'État, lorsque le policier lève sa main, il est obligé de stopper son véhicule. Et lorsque le policier fait cela, il n'a pas le pouvoir de maîtriser les voitures, il n'a pas la force physique, il n'a pas la capacité d'arrêter des voitures et de les obliger à ne pas bouger. mais il a l'autorité. Ce que derrière le simple policier qui est là, il y a toute la machine de l'État qui est derrière. Cette machine peut se mettre en action en quelques secondes. Des hélicoptères, des forces spéciales sont lancés si vous touchez aux policiers. Alors donc, les véhicules sont obligés de s'arrêter parce qu'on sait que derrière le policier se cache une grosse machine. Et cette machine-là, elle a le pouvoir. Elle a la capacité de maîtriser tous ceux qui veulent s'entêter, mais le policier n'a pas cette capacité. Il a le pouvoir, il agit au nom de l'État, au nom des pouvoirs publics, au nom d'une autorité bien plus importante. Pour nous, les chrétiens, c'est ce que nous devrions vraiment comprendre. Par exemple, lorsque nous prions pour des malades, j'ai remarqué que parmi les pasteurs, aussi, il y a beaucoup de doutes. Imaginez si nous avons dans la salle quelqu'un qui a les deux pieds amputés. Je pense que je vais encourager le pasteur Antonio à prier pour ce cas. Et s'il y a une autre personne qui a le paludisme, je pense que je vais plus aller de ce côté. Pourquoi? Parce que je vais me dire, les deux pieds coupés, c'est vraiment délicat. C'est compliqué. Donc, pour éviter le ridicule, la confusion, je vais laisser le bishop s'en occuper. S'il y a la confusion, ce sera de son côté. Ouais. Quand nous faisons cela, c'est parce qu'en fait, nous regardons à nous-mêmes, à nos limites, à nos incapacités. Et on oublie qu'en fait, ce n'est pas nous qui guérissons et qui opérons des miracles. C'est Dieu. Nous, nous sommes incapables comme le policier pour maîtriser les événements. Mais derrière nous, il y a un qui est plus grand. Il nous donne l'ordre de lever la main. Imaginez si le policier, au bon milieu de la route, il hésite entre lever la main. Vous voyez, il y a certains automobilistes qui peuvent sortir du véhicule pour dire, mais vous n'êtes pas policier. Parce que si vous étiez policier, il y a longtemps, vous auriez fait simplement avec autorité le signe. Et on aurait compris. Vous voyez? Donc Dieu nous dit, vous imposerez les mains aux malades. Et nous devions nous exécuter. Sachant que le maître suprême nous donne l'ordre de le faire. Et lui, il a la capacité de faire que les choses se réalisent. Donc, si nous comprenons que nous avons simplement l'autorité qui est déléguée, une partie du pouvoir de Dieu qu'il nous a délégué, alors on aura moins de doutes. Mais pourquoi nous doutons? C'est parce que nous regardons à nous-mêmes. Dieu dit, lorsque vous passez votre entretien d'embauche, ne préméditez pas votre défense. Mais on se dit, il faut quand même préparer un plan B, un plan C, au cas où. Oui, donc ça veut dire qu'en réalité, on ne croit pas. Dieu a la capacité de convaincre celui qui nous fait passer l'entretien d'embauche. Mais nous ne croyons pas vraiment cela. On se dit, bon, je crois, mais il faut quand même se préparer. On ne sait pas. Vous voyez, si nous croyons, nous devrions simplement demander à Dieu, est-ce que je dois passer cet entretien? Et si Dieu est d'accord, allez passer l'entretien selon la conviction que Dieu nous donne, que nous remplissions les conditions ou que nous ne les remplissions pas, Dieu est tout puissant pour opérer. Ça m'a par exemple aidé donc les interventions au niveau de l'ONU, parce que vous savez que pour aller à l'ONU, normalement, il faut être docteur en droit dans des spécialités du droit, mais je n'ai même pas fait un seul cours de droit. Je ne sais même pas ce qui s'enseigne dans les écoles de droit. Et souvent, donc, quand je suis là-bas, j'envoie toujours des messages sur Facebook pour les chrétiens, de leur dire, priez pour moi. Parce que moi, je suis ici non pas comme des spécialistes, mais juste comme Dieu dit, il prend les pauvres de la poussière, les fait asseoir avec les grands. Il veut prouver qu'il peut le faire. S'il prend un illettré qui vient d'Afrique dans le domaine du droit, il le fait entrer dans des endroits comme cela, c'est juste que Dieu veut prouver qu'il est Dieu. Il est Dieu. Mais l'autre jour, quand j'étais au Conseil des droits de l'homme, j'ai eu l'interview donc, de la chaîne publique marocaine qui voulait savoir pourquoi vous êtes là. Même le représentant du Vatican a perdu son accréditation, mais vous n'avez pas fait des études de droit, vous n'êtes pas juriste, mais vous êtes là. Pourquoi? Et j'ai expliqué que, en fait, je suis enfant de Dieu. Il dit, oui, mais nous aussi, nous croyons à Allah. Nous sommes aussi avec Dieu. Mais pourquoi nous, on n'est pas là? Donc, je leur ai expliqué qu'en réalité, Dieu est tout-puissant. Si on accepte notre rang, que nous ne sommes rien, nous ne sommes que des créatures, on n'est même pas capable de bouger notre bras si Dieu décide que vous ne pouvez pas le bouger. Et comme Dieu est tout-puissant, il est omniprésent, il est partout, il n'a pas besoin de visa. Il n'a même pas besoin de faire des cours de droit. Et si moi je suis seulement à sa suite, il met le pied là, moi je m'accroche à lui et je le suis. Il n'a pas de cours de droit. Lui il entre, moi aussi j'entre. Tant qu'il est là, tant qu'il peut entrer et que moi je suis à sa suite, alors ça peut marcher. Donc ce matin, nous allons notamment voir que le plus important pour nous, c'est la connexion avec Dieu. Les ampoules que nous avons, elles nous éclairent, mais elles sont connectées à quelque chose de bien plus puissant, la source d'énergie. Si on coupe les fils qui les relient à la source d'énergie, il n'y a plus rien. Ça ne donne plus rien. Et nous sommes comme ça. Connectés à la source d'énergie divine, les choses peuvent étonnantes peuvent s'opérer. Mais avec tous les diplômes du monde, sans Dieu, les portes peuvent se fermer devant nous. Donc nous avons besoin de cette connexion. Donc comprenons clairement, frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de prouver quoi que ce soit. Nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Dieu est la source de tout pouvoir et de toute autorité. Les choses qui nous paraissent impossibles lui sont possibles. Et comme le frère qui faisait l'animation l'a dit, il appelle à l'existence même les choses qui n'existent pas. Lui, il peut faire qu'il y ait la lumière ici sans avoir besoin de dépendre de la source d'énergie d'ici. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Sans aucune connexion d'électricité, ben Dieu peut éclairer toute cette salle en un clin d'œil et il y a plus de lumière, même merveilleuse, que ce que nous voyons. Donc, c'est vraiment souhaitable en tant qu'enfant de Dieu de comprendre que nous n'avons pas besoin de prouver quoi que ce soit. Rien du tout. Rien du tout. Donc, c'est pourquoi je donne souvent certains témoignages et je pense que Dieu permet, comme la sœur a été inspirée par Dieu pour le dire, comment, quand je témoigne, même aux Nations Unies, j'ai dit, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Si ce n'était que les Nations Unies, je pourrais peut-être me poser des questions. Mais quand même, je suis venu en Europe par l'invitation de la Commission européenne. Alors que je ne fais pas partie d'une famille aisée d'Afrique, même là-bas, je ne suis pas spécialement connu. Mais quand même, Dieu peut faire ça pour montrer que, vous voyez, je peux tirer n'importe qui de n'importe quel coin. Parce que nous lisons dans la Bible que le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de Dieu. Il incline là où il veut. Mais on dit oui, mais le roi, on ne sait pas. Mais Dieu l'a fait quand même, de voir un Africain qui n'est d'aucune utilité pour l'Union européenne et l'Union européenne qui combat l'immigration et qui fait quand même venir un Africain. J'ai témoigné de cela lorsque récemment j'étais dans la télévision belge et qu'on m'a posé des questions. J'ai dit, mais c'est cela que Dieu peut faire. Donc nous n'avons rien à prouver. Si on va regarder mon CV, ça n'intéresserait pas la Commission. Et ça n'intéresserait pas l'ONU non plus. Encore moins la francophonie ou l'UNESCO, les endroits où je suis accrédité. Mais Dieu fait ça expressément. Et j'ai témoigné comme ça dans ces milieux que non, moi, j'ai pas de diplôme que vous avez. Je viens là pour saisir juste les occasions où on parle de Jésus. Si on veut savoir quelque chose du christianisme, je dis, ouais, ça, c'est le christianisme. Je peux vous en dire quelque chose. Mais sur les autres sujets techniques, je comprends même pas ce qu'ils parlent. Je comprends pas. Mais quand ils abordent les difficultés, la persécution des chrétiens, Dieu. Là, je peux quand même avoir mon mot à dire. Vous voyez? Donc, Dieu fait des choses étonnantes, frères et sœurs. Et c'est pourquoi, ce matin, c'est important de voir ce qui concerne l'autorité. Donc, on va lire quelques textes. On va lire quelques textes sur ce sujet-là. Notamment, le psaume 62, verset 12. Le psaume 62, verset 12. Dans le psaume 62, le verset 12, vous voyez que dans ce texte, il est dit, c'est que la force est à Dieu. La force est à Dieu. Il a une force, il a une force pour maîtriser toutes choses. Donc lui, il peut tout, mais nous ne pouvons pas faire grand-chose. nous ne pouvons rien faire. En fait, tout est possible à Dieu. Il est capable de tout faire. De créer, d'appeler même ceux qui sont morts il y a des siècles, il peut même les ramener à la vie tout de suite. Ou même de faire qu'un vieillard devienne jeune. Il peut rajeunir ou faire vieillir. En fait, Dieu peut faire tout ce qui nous paraît complètement insensé ou impossible. La force est à lui. Lui peut maîtriser les choses. Et vous allez voir comment les apôtres parlent lorsque, dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, verset 5, parce que nous lisons les actes des apôtres, on est impressionnés. On dit, mais ces gens étaient puissants. Ah, ils peuvent même, leur ombre guérir les malades. Ils sont vraiment forts, ces apôtres. Et je pense que si l'apôtre Pierre, par exemple, revenait de nos jours, même notre bishop, il va perdre son poste. Parce que si l'apôtre Pierre crée l'église à La Rochelle ou à Troyes, je pense que les frères vont dire, Pasteur Anthony, on t'aime bien, mais c'est là-bas, il y a une telle onction que même son ombre nous guérit alors que toi, tu pries pour nous, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Ouais. Mais ils ont un secret, ces apôtres. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5. Ils disent que ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Mais notre capacité vient de Dieu. Ils ont compris qu'ils ne peuvent pas par eux-mêmes faire quoi que ce soit. Mais s'ils sont connectés à Dieu, les choses deviennent possibles. Ce n'est pas que nous soyons par nous-mêmes capables. Dieu est capable de faire des choses par lui-même. Mais nous, il nous a délégué une partie de son pouvoir. Si nous faisons ce qui lui est agréable, si nous faisons des choses qu'il nous commande de faire, alors sa toute-puissance se met en action. Ils disent cela, nous ne sommes pas capables de faire quelque chose comme venant de nous. Mais notre capacité, nous la tenons de Dieu. Il y a aussi un récit dans les Actes des Apôtres au chapitre 3. Il y a cet homme qui était paralytique et qui demandait l'aumône. Et Pierre dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, au nom de Jésus-Christ, lève-toi droit sur tes pieds. Et on dit, au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes et pouvaient se lever d'un bond. On peut se dire, ah, mais il a de la puissance, ce Pierre-là. Il a de l'onction, ce Pierre. Mais voyez ce que Pierre va répondre au verset 12. Si vous lisez Actes chapitre 3, verset 12, Pierre va répondre à ceux qui les admirent en disant, là, c'est vraiment des gens exceptionnels. Ils disent, mais Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'est par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Vous pensez que nous avons une quelconque puissance? Rien du tout. Notre piété, nous ne sommes pas spécialement pieux. Ce n'est pas cela. Le verset 15, ils disent que c'est le nom de Jésus qui a raffermi celui que vous voyez. C'est le nom de Jésus qui l'a raffermi. Celui que vous voyez et que vous connaissez bien, c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Ne nous regardez pas comme si nous sommes quelque chose. C'est lui dont ils ont vraiment compris la chose, qu'eux ne peuvent rien, ils ne peuvent pas par eux-mêmes faire quoi que ce soit. Mais Jésus, au nom de Jésus, les choses peuvent changer et marcher. Donc c'est important, frères et sœurs, de comprendre la différence entre le pouvoir. Dieu a tous les pouvoirs. Il peut tout faire. Mais il nous dit seulement ce que nous devons faire pour que lui, il se mette en action. Il dit par exemple, imposez les mains aux malades, ils seront guéris. Mais nous traînons les pieds. Et vous savez qu'il n'a même pas dit de prier, d'imposer les mains et de prier. Mais pourquoi nous prions? Parce qu'on s'est dit, si j'impose la main à la sœur ou au frère, bon, je ne dis rien, je ne sais pas s'il va croire. Et nous-mêmes, on veut aussi s'encourager en multipliant des paroles. Mais on ne croit pas. Il a dit, vous imposerez les mains aux malades. Vous lisez dans la Bible, Jésus a touché certaines personnes et la guérison était assez instantanée, sans prier. Il savait quand il fallait prier. Et même quand il a prié pour le cas de Lazare, il dit, moi j'ai prié à cause des gens qui sont là pour croire. Mais pour moi, ce n'était pas nécessaire. Je savais que tu m'exauces toujours. Vous imposerez les mains aux malades. On devrait s'arrêter à cela. sans rien rajouter. Mais on s'est dit non. Les frères vont penser qu'on est en train de bouder. Pourquoi est-ce que le pasteur, il vient juste, il me touche, il est pressé. Ouais. Donc, on est obligé de multiplier quelques paroles qui ne servent pas forcément à rien. Si nous savons que c'est au nom de Jésus qu'on agit, il nous a dit, imposez les mains. Mais on impose les mains. Et on doit s'attendre à la guérison et glorifier le Seigneur. Amen. Ça devrait marcher, si simplement. Mais on ne croit pas des choses simples. On se dit, non, si c'est seulement l'imposition des mains, il y a quelque chose qui ne tourne pas bien là. Parce qu'il n'a rien dit, le pasteur, il n'a même pas fait quelque chose. Ouais. Donc, Dieu veut qu'on soit simplement rempli de foi, croire ce qu'il dit. Il nous dit, imposez les mains, on impose les mains, on attend qu'il guérisse le frère ou la sœur, sans les complications qu'on rajoute. Et Jésus dit un jour, vous pouvez ordonner que la montagne se soulève. On dit peut-être c'est une montagne spirituelle, mais il a dit, la montagne que vous voyez là devant vous, vous pouvez commander qu'elle se soulève, mais nous ne croyons pas cela. On va déformer la géographie. On ne voit pas comment on va parler à des montagnes. Ouais, donc on raisonne comme cela. C'est simplement que nous regardons à nos limites et nous pensons que Dieu aussi est limité. Nous sommes face à une muraille d'impossibilités, mais Dieu n'a que des solutions et nous n'avons que des problèmes, frères et sœurs. Croyons simplement. Et donc ce texte-là nous montre que les apôtres ont bien compris la chose. Si nous comprenons cela, nous serons vraiment en paix. Face aux difficultés, face aux problèmes, on sera en paix. En se disant, nous avons un Dieu, le Dieu de l'impossible. Nous ne pouvons rien, c'est normal, lui peut tout. Et simplement collaborer avec lui, les choses deviennent possibles. Vous savez, lorsque vous avez des enfants en bas âge, si un enfant de maternelle est menacé par ses camarades, et qu'un grand frère qui fait la musculation et vient l'accompagner, je pense que tant que le grand frère est là, bien baraqué, des autres petits, ils ne vont pas tellement s'amuser. Vous voyez? Donc c'est ce que nous sommes. En fait, on doit se dire, nous ne pouvons rien, tout nous fait peur. Mais si on voyait Dieu dans sa grandeur, on serait comme cet enfant de maternelle, dès qu'il voit son grand, you know, là, personne ne peut me toucher. Tant que le grand frère est là, il peut attraper tous mes petits amis là, donc aucun ne va bouger. Si nous croyons, Jésus qui dit, je suis avec vous, tous les jours, ce Jésus-là, il peut tout. Il est partout, il fait tout ce qu'il veut. On serait vraiment en paix, comme un enfant de maternelle qui avance courageusement devant ceux même qui le terrifient habituellement, tant que le grand frère est là. Vous voyez? Donc c'est cela que ce point nous enseigne. Donc nous avons beaucoup de Donc vous voyez que Dieu a créé l'homme normalement pour marcher avec lui. Merci. Pour marcher avec lui, pour dominer. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 1, vous voyez très bien que l'intention de Dieu, c'était que l'homme domine sur toute chose, sur toute la terre, sur les poissons, sur les animaux, et même aussi qu'il cultive la terre, qu'il entretienne ce que Dieu a créé. C'est cela, et le psaume 8, versets 4 à 6, va nous donner un commentaire qui est intéressant. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Donc Dieu nous a créés pour dominer aussi longtemps qu'on est en collaboration, en communion avec lui. Mais l'homme a perdu son leadership à cause du péché. Et ce point est intéressant parce que vous savez que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si le péché d'Adam a conduit à la perte de son leadership, le péché du chrétien fait la même chose. Même le démon ne vous sera jamais soumis tant que vous vivez dans le péché. Vous allez beau crier, même crier fait sauter les toitures, mais le démon ne va pas sauter. Il va vous regarder, crier. Ce qui fait la différence, c'est s'il voit Dieu avec vous. S'il y a la présence de Dieu, vous n'avez même pas besoin de crier. Je me rappelle du témoignage de Theo Osborne qui disait que le déclic qu'il a eu pour commencer à prêcher sur les miracles, c'est qu'il a vu un prédicateur évangéliste qui devait prier pour une petite fille sourde et muette. Il dit quand il a appris que c'est un démon sur sa place, il commençait à s'échauffer en disant « Je suis pentecôtiste, là il y a des démons, on va crier. » Donc va vraiment, ça va chauffer dans toute la salle. Il était encore en train de s'échauffer, comme ça se faisait dans son église pour chasser les démons. Il voit que le pasteur en question dit seulement à l'esprit sourd et muet de partir. Il dit « Voilà, c'est fini, la petite fille est guérie. » Il dit « Mais c'est ton blasphème. On n'a même pas encore fait du bruit, comme il dit dans son témoignage. Comment est-ce que ça peut partir ? Comment est-ce qu'il est prétentieux, ce monsieur ?» Et la petite fille se met à parler et entendre. Il dit « Mais là, il y a quelque chose. Nous crions dans notre église, rien ne marche. » Mais lui, il n'a même pas encore crié que tout est réglé. Ouais, donc ça a changé quelque chose dans sa tête. Il a commencé à prêcher les miracles et les guérisons. Il a commencé aussi à comprendre que ça ne sert à rien de crier dans l'évangélisation. Il faut parler naturellement. Il a commencé à parler naturellement et avoir les mêmes miracles, plus même que le pasteur en question. Ouais. Donc c'est pour dire que en fait la différence n'est pas tout ce que nous faisons habituellement dans notre culture religieuse, mais la différence, c'est la relation avec Dieu. Si Dieu est avec vous, vous n'avez même pas besoin de crier. L'ombre de Pierre suffisait. La présence de Dieu était là. Même l'ombre de Pierre pouvait guérir. Mais en autre, même en criant, en faisant tous les bruits, toutes les manifestations possibles, n'aurait rien pu faire. Donc, c'est important, frères et sœurs, de comprendre que Dieu nous a établis pour dominer, mais le péché a créé des problèmes à l'homme. Donc, et nous allons voir dans Genèse, justement, comment le problème est arrivé. Dans Genèse, chapitre 3, versets 8 et 10, et vous allez voir quelque chose d'intéressant dans ce texte, c'est que Adam et Ève étaient en communion parfaite avec Dieu. Ils pouvaient même donner les noms à tous les animaux, tellement Dieu lui a fait confiance. Donc, quand il disait à un animal, toi, tu t'appelleras lion, le lion ne pouvait pas contester. Pour dire ce nom ne me convient pas, le lion devient lion. C'est l'homme qui décide. Toi, tu es éléphant. Et l'éléphant ne va pas dire ce nom ne me convient pas. Ou non, il accepte. Il intègre le fait qu'il est éléphant. Toi, tu es chien et tu deviens chien. Et il a donné tous les noms tranquillement, sur de lui. Donc, c'est un grand patron. Il regarde le poisson, il lui donne un nom. L'oiseau, toi, c'est épervier, l'autre là. Donc, c'est un grand patron de l'humanité pendant qu'il était en communion avec Dieu. Mais l'éléphant sait que derrière l'homme, il est mandaté par Dieu, donc il agit au nom de Dieu. L'éléphant va se soumettre. La nature se soumet à Dieu sans aucun problème. Et nous allons le voir, quelques exemples sur Jésus. Donc, notre souci, c'est le péché. Et nous lisons Genèse chapitre 3, versets 8 à 10. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui était leur ami et qui venait de temps en temps dans le jardin. Ils entendent sa voix et qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Vous voyez, ils se mettent loin de Dieu. Ils se cachent loin de Dieu. Ils ne sont pas dans la sphère où la présence de Dieu agit. Ils sont en dehors. Alors, ils se cachent loin de Dieu, au milieu des arbres. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Tu n'es pas dans ma présence. Mais comment tu vas t'en sortir si tu es en dehors de ma présence? Même un animal ne te sera pas soumis si tu n'es pas dans ma présence. Le lion va te dévorer. Mais dans ma présence, comme Daniel dans la fosse aux lions, les lions ne peuvent pas le toucher. Il est rempli de la présence de Dieu. Les lions le respectent, respectent la présence de Dieu. Alors, où es-tu? Il dit, mais j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Notez bien le mot peur. Vous allez être étonné que chaque fois dans le Nouveau Testament, il est écrit de ne pas avoir peur, mais de croire. Comme dans Marc chapitre 5, verset 36, n'aie pas peur, mais crois seulement. Donc la peur est venue par le péché. Dès qu'on chute, on commence à avoir peur. Pourquoi? Parce que tous les éléments qui ont peur de Dieu et qui se soumettent à Dieu ne peuvent pas se soumettre à nous. Loin de Dieu, on devient, nous les qui étions dominants, on devient dominés. Même le diable qu'on devait dominer, il nous domine. Les démons qui devaient avoir peur de nous, et c'est nous qui devrions, qui avons peur d'eux. Les chrétiens ont peur des démons. Si vous voyez un fou qui entre là, rempli de démons, je pense que les chrétiens, chacun, il va chercher son chemin. Parce que on a peur des démons. Les sorciers nous font peur. Si vous allez dans un quartier, on dit c'est le quartier des sorciers, je pense qu'il n'y a pas beaucoup qui évangéliseraient le quartier des sorciers. On va dire non, bon, nous, on est spirituels. C'est pas le genre de quartier comme ça. Et on va trouver des arguments. En réalité, on a peur des démons parce qu'on a perdu notre leadership. Mais nous devrions reprendre notre leadership. C'est pourquoi Jésus dit, vous chasserez les démons. Quand vous retrouvez votre position, vous reprenez votre leadership. Donc, dans ce texte, nous voyons que la peur est entrée. L'homme qui était serein, qui n'avait peur de rien, et là, il a peur, même de Dieu, il a peur de tout. Et ils disent à Dieu, parce que nous sommes nus. Et mais Dieu dit, comment vous savez? Qui vous a dit que vous êtes nus? Et c'est normal. Mais pourquoi nous avons peur? Admettons que nous, si nous avions les regards centrés sur Jésus, comme la Bible nous encourage, je ne peux pas avoir les yeux sur le ciel et savoir si mes chaussures sont noires ou vertes ou quoi que ce soit. Donc si je sais que je suis nu ou je suis chaussé de telle manière, Dieu dit, mais comment tu le sais? Puisque tu es censé me regarder et me voir dans ma gloire, dans ma splendeur, comme on a chanté tout à l'heure, le frère nous a fait répéter encore cela. On voit Dieu, comment sa gloire resplendit dans le monde entier. On ne devrait pas dire, j'ai peur, je suis nu. Mais comment tu le sais? Tu ne devrais rien voir de ce genre, puisque tu as les yeux sur Dieu, et Dieu s'occupe de toi, dont tu ne sais pas ce qui se passe sous la terre, puisque tu as les yeux vers le ciel. Donc il y a un problème. Si nous regardons à Dieu, la Bible dit, nous sommes rayonnants de joie, et on ne se couvre pas de honte. Mais si nous regardons à nous-mêmes, on est confus. Donc, frères et sœurs, ça a commencé dans la Genèse. Tant qu'ils avaient les regards sur Dieu, ils étaient en communion avec lui, ils avaient une bonne relation avec lui, l'homme n'avait pas peur. Il pouvait naturellement dominer, mais quand il a péché, la peur est arrivée, les accusations, oh c'est la femme qui a fait ci, c'est l'homme qui a fait ça, et puis les accusations ont commencé, la polygamie est arrivée aussi dans la foulée, l'homme qui pouvait dire, oh, celle-ci est os de mes os, chair de ma chair. Maintenant, elle se retrouve avec plusieurs os des os et chair de chair. Et il y a la polygamie. C'est un problème qui est venu par la chute. Aujourd'hui encore, l'infidélité balaie le monde entier. En Afrique, certains courageusement sont polygames, ouvertement. En Europe, c'est interdit la polygamie, mais il y en a quand même plusieurs maîtresses dans la nature. C'est le péché. Quand la chute arrive, c'est comme cela. La peur, les accusations, l'infidélité, les meurtres, même les frères s'entretuent. Donc c'était vraiment grave après la chute. Et c'est encore possible aujourd'hui que ceux qui chutent commettent les mêmes choses. Donc la chute a créé beaucoup de problèmes à l'homme. Et Jésus, notre Sauveur, est venu pour nous rétablir dans nos fonctions et dans notre leadership. Et ça, c'est merveilleux parce que Jésus, il dit ceci dans Matthieu 28, verset 18, un texte que nous connaissons tous, lorsqu'il dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. Il a reçu tout pouvoir. Il est venu dans le monde. Il a pris notre place. Il est notre substitut. Il a vécu dans la chair humaine et il a montré aux hommes comment on peut vivre dans cette chair et triompher. Et il a reçu tout pouvoir. Et nous savons comment il a exercé ce pouvoir. Lorsqu'il guérit les malades, lorsqu'il chasse les démons, il a fait beaucoup de choses pour montrer comment le pouvoir divin agit dans la chair humaine. Il a dit, voilà, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et il attend que nous fassions les mêmes choses. Lorsqu'il dit cela dans Jean chapitre 20, verset 21, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Le Père l'a envoyé comment? Il a envoyé Jésus, il lui a donné le Saint-Esprit, et par le Saint-Esprit, il a fait des tas de miracles par la puissance du Saint-Esprit. Et lui aussi nous envoie en nous donnant le même Saint-Esprit, en nous disant, vous allez faire les mêmes miracles, et même de plus grands que ce que vous avez vu. Voilà ce que Jésus a fait pour nos frères et sœurs, dont nous sommes rétablis. Et on peut faire les mêmes choses que Jésus a faites. On peut guérir les malades. On peut chasser les démons. On peut faire tout ce qu'il a pu faire. Mais est-ce que nous croyons cela possible? Est-ce que vous croyez vraiment pouvoir faire les mêmes choses que Jésus? Nous devrions pouvoir faire les mêmes choses. Et cela va nous conduire à un point qui est très important sur l'exercice de l'autorité. Parce que si nous avons reçu l'autorité, si Dieu nous a délégué une part de son pouvoir, alors nous devrions pouvoir faire les mêmes choses que le Seigneur, dans la même chair, tout ce qu'il a pu faire. Mais qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas avec nous? Parce que nous devons bien remarquer qu'il y a quelque chose qui cloche. Jésus n'était même pas malade. Et nous, on est tout le temps malades. Il y a quelque chose qui ne tient pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors, nous allons comprendre que il y a au minimum trois conditions à remplir pour vraiment exercer l'autorité en tant que chrétien. Sinon, nous serons étonnés d'entendre ce que Dieu fait par d'autres chrétiens, alors que nous portons la même Bible, que nous fréquentons les mêmes églises. On va se dire, il y a quelque chose qui ne tourne pas. George Mueller en Angleterre pouvait nourrir 10 000 orphelins sans salaire. Mais nous, on n'arrive même pas à nourrir 2 ou 3 enfants sans salaire. Il y a quelque chose. Mais c'est un homme de la même nature que nous. Mais où est la différence? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Donc nous allons voir déjà l'exemple de Jésus avant de voir les conditions. Mais nous allons voir que Jésus est pour nous un modèle. Comment il a exercé cette autorité? Donc nous allons lire par exemple dans Luc chapitre 4, dans les versets 38 à 39. Et vous allez voir que Jésus, il a exercé l'autorité. Parce que quand on dit exercer l'autorité, comprenez bien, c'est commander, c'est donner des ordres, comme un chef d'armée qui vous dit, faites ceci, faites cela. Donc, Jésus, ce n'est pas la même chose que de prier pour les malades. On a parlé de l'imposition des mains. On n'exerce pas son autorité en imposant les mains. On laisse juste l'occasion à Dieu de pouvoir agir. Mais quand on exerce l'autorité, ça veut dire que tu peux dire à la maladie, quitte ce corps et tu t'en vas. Parce qu'il suffit fils de Dieu. Voilà. Et la maladie s'en va. Elle s'exécute. Et ça, Jésus l'a fait. Parce que ça peut nous étonner. Nous, on est habitués qu'à chaque maladie, on prie. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il fait dans le cas de Luc, chapitre 4, verset 38? Il a exercé l'autorité sur la maladie, dont il a commandé à certaines maladies sans prier, mais il a commandé qu'elle s'en aille. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et ils le prièrent en sa faveur. Au verset 39, s'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. Mais Jésus a parfois parlé à des choses, à un arbre comme si c'est un être humain, il dit à la fièvre de partir, mais on peut se dire, mais la fièvre n'a pas les oreilles, comment elle va entendre ce que tu lui dis? Mais la fièvre, c'est la maladie, donc il faut seulement prier. Non, Jésus a commandé à la fièvre, il dit, fièvre, tu pars. On ne sait pas par quelles oreilles la fièvre entend l'ordre donné par Jésus, mais ce qui est sûr, tout est soumis à Dieu. Donc, quand Jésus agit, au bon moment, selon la volonté de Dieu. En fait, Dieu sait comment il se fait entendre, même des arbres, même des montagnes, même de toutes ces choses. Mais en tout cas, Jésus a menacé cette fièvre. Il dit, mais tu t'en vas. Il n'a pas le temps de dire, oh Père, est-ce que tu aimerais bien guérir la belle-mère de Pierre? Tu sais que Pierre, c'est quand même mon disciple. Il est avec moi. Non, dans ce cas, il menace la fièvre. Il dit, tu t'en vas. Quitte le corps. Je te réprime. Et puis la fièvre s'en va, sans aucune autre négociation. Et ça, c'est vraiment étonnant. Donc Dieu nous a donné ce pouvoir que dans cet cas, et là, ça nécessite d'être en communion parfaite avec lui pour savoir quand est-ce qu'il faut prier pour demander à Dieu d'agir, quand est-ce qu'il faut donner un ordre à une maladie, à une situation. Et là, il faut vraiment une relation étroite avec Dieu, sinon on va agir à temps et à contre-temps. Parce qu'un policier, ce n'est pas parce qu'il porte un pistolet qu'il va tirer sur tout ce qui bouge. Non, il doit connaître certaines règles et recevoir certains ordres avant d'agir. Il ne va pas dire, bon, c'est un braqueur, donc il faut seulement l'abattre. Non, il doit tenir compte d'un certain nombre de règles. Et j'ai vu que même quand on traquait Ben Laden, même quand on découvre la présence d'un terroriste, il faut encore recevoir les ordres, pour savoir, est-ce qu'il faut l'abattre? Est-ce qu'il faut tout faire pour le saisir vivant? Vous voyez, donc on ne peut pas dire, je suis policier, j'ai une arme, tous les voleurs, je peux les tuer. Non, ce n'est pas cela. Donc ce n'est pas parce que nous avons l'autorité qu'on va faire comme les disciples qui disent à Jésus, bah, puisqu'on a ce pouvoir, on va maintenant faire que le feu descende du ciel pour tuer tous ces gens qui ne veulent pas te recevoir. Il dit non, ce n'est pas pour tuer les vies que vous avez le pouvoir. Ce n'est pas pour tuer n'importe qui parce qu'ils ne veulent pas recevoir. Je suis venu pour sauver, non pas pour détruire. Ouais. Donc nous avons un pouvoir, mais il faut savoir maintenant tenir compte des ordres qu'on reçoit du haut lieu, frères et sœurs. Mais Jésus nous montre que dans certains cas, on ne doit pas prier Dieu de guérir, mais on peut commander à une maladie, dans certains cas, de partir, tout simplement, en étant sûr de qui on est. Et quand je dis qui nous sommes, quand vous lisez Colossiens chapitre 1, vous voyez qu'il est écrit, il nous a transportés du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils de son amour. Et parce que, j'ai dit cela, pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que là, vous venez d'acheter le magasin Lidl. Vous savez que cette bouteille d'eau placée dans les rayons de Lidl, elle coûte un prix. La même bouteille d'eau placée dans un magasin plus prestigieux, c'est encore un autre prix. À l'Élysée, si jamais on a un resto là-bas et vous voulez acheter la même bouteille, c'est encore un autre prix. Pourquoi? Selon le lieu où on se situe, on a une valeur. Si on se dit, ah, moi je suis un pauvre pécheur comme les catholiques confessent, on va faire la prière des pauvres pécheurs. On ne peut même pas donner un autre parce qu'un pauvre pécheur. Oh, Seigneur, aie pitié de nous les pauvres pécheurs. Si dans ta tête, tu es situé dans la catégorie des pauvres pécheurs dans le monde des ténèbres, tu n'auras pas quelque chose de plus ambitieux à viser. Parce que ta valeur, c'est la valeur des fils des ténèbres et des pauvres pécheurs. C'est que tu es dans les rayons de Lidl. Mais si tu es dans les rayons plus élevés, à Lidl, tu coûtes 5 centimes, de l'autre côté, 2 euros, plus tu montes, plus ça monte. Et on est dans le royaume très haut. Donc si dans notre tête, ça ne change pas, c'est pourquoi Romains chapitre 12, verset 2 dit, il faut être transformé par le renouvellement de notre intelligence et un changement de mentalité en quelque sorte, d'après le grec. Donc il faut se dire, non, je suis plus juste un fils pauvre pécheur comme ça, un peu. Non, je suis dans le royaume de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Donc, tout ce que Dieu a est à moi. Quand je demande un peu d'argent, je ne suis pas en train de commander. Ça fait partie de mon héritage là-haut. Donc, je demande quelque chose. En fait, c'est légitime. Jésus l'a fait pour moi. Et donc, je vais courageusement demander à Dieu quelque chose, sans douter. Donc, et je sais que même là au ciel, j'ai deux intercesseurs fervents. Dans le livre de Romains chapitre 8, verset 26 et verset 34, il nous parle des deux intercesseurs que nous avons. Le premier, c'est le Saint-Esprit, il intercède pour nous. Et Jésus lui-même intercède pour nous. Romains chapitre 8, 26 et 34. Donc, on n'est pas juste comme ça. Donc, même si je n'ai pas prié pour moi-même, mais avec deux intercesseurs de ce calibre-là, au ciel, là-bas, en fait, quelque chose doit changer dans ma tête. Je dois me voir autrement. Je ne dois pas dire, ah, vous savez, nous, on est des pauvres malheureux, là, des petits pécheurs. Mais est-ce que même Dieu va nous écouter? Donc, le diable est content de cette ignorance. Mais quand on est conscient, avant, j'étais positionné spirituellement dans les ténèbres. Et les ténèbres, ça symbolise le mal, la débauche, au final, la mort. C'est le désespoir. Mais la lumière symbolise la présence même de Dieu. Là où il y a la victoire, là où il y a la paix, il y a la joie, il y a le succès. C'est le domaine des miracles où c'est jamais perdu. Vous savez, il y a quelque chose. Bon, je sais que le pasteur Antonio, il aime bien l'Olympique de Marseille. Et il y a beaucoup de fans de l'Olympique de Marseille. Et vous savez ce qui se passe? Chaque fois qu'il y a un match, bon, je vois, il est un peu stressé quand il y a un match. S'ils jouent contre Real Madrid, ils vont être stressés. Ils sont stressés pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sûrs de leur équipe. Parce que tantôt ça gagne à Marseille, tantôt ça perd. Mais nous, on fait partie d'une équipe qui est toujours gagnante. Amen. C'est toujours. C'est pourquoi on est transporté dans le royaume d'échecs, les ténèbres. Et on est dans le royaume de Dieu. Là, c'est l'équipe qui gagne toujours. Amen. Jamais de défaite, jamais un match nul. Toujours la victoire. Amen. Toujours. Même si on mettait Ronaldo et tous les autres, ils seront tous battus. Oui, c'est ça les merveilles, frères et sœurs. Donc, Dieu veut qu'on change. J'ai entendu le Real Madrid quand il parle. Zidane, alors, ton équipe. Nous, c'est le Real. Nous sommes le Real. Donc, il est fier de présenter. Mais nous devrions être fiers du royaume de Dieu. Amen. Avec Jésus comme notre intercesseur, le Saint-Esprit en intercesseur, Jésus notre avocat en Jean chapitre 2, versets 1 et 2. Mais qu'est-ce qu'on a encore besoin? Donc, on doit marcher étant sûr de nous. Donc, Jésus, un jour, l'homme lui dit, un roi lui dit, tu sais, j'ai le pouvoir de te sauver, de te libérer. Tu n'as aucun pouvoir. À moins qu'il ne te soit donné d'en haut. En ouvrant un bâtiment, qui peut répondre comme ça à son patron, je vais te licencier. Si tu continues comme ça, vous n'avez aucun pouvoir. Vous ne pouvez pas me licencier. Et le patron serait étonné. Mais comment? Je ne peux pas le licencier. Mais il n'aura pas le courage de vous licencier parce qu'il va se dire, s'il parle ainsi, il a certainement des appuis. Il a certainement des appuis. Et la Bible nous dit que nous avons des appuis. Dieu promène ses regards sur toute la surface de la terre pour soutenir ceux qui ont le cœur tout entier à lui. C'est ce que la Bible dit. Donc on a un appui de taille là-haut. Il est là pour appuyer, soutenir ceux qui ont le cœur entièrement en lui. Donc c'est pourquoi le changement de mentalité est important, de savoir que mais il y a des choses qui se sont opérées. Nous sommes sur terre des représentants même de Jésus, les ambassadeurs. Nous ne sommes pas simplement des êtres humains. Ah, moi je suis seulement un Africain. Non, il n'y a pas de question d'Africain. On n'a même pas besoin de changer quelque chose. J'ai vu, par exemple, dans des endroits, comme je vous ai parlé des Nations Unies, quand on arrive au restaurant, bon, maintenant, ils disent toujours, mais le monsieur africain, lui, il prend toujours les bananes comme dessert. Et pourquoi? Parce que j'arrive là, on me dit, bon, qu'est-ce que vous prenez comme entrée? Je dis, non, moi, je suis africain, vous savez. Moi, nous, on ne connaît pas les entrées, on va droit au but. Bon, il y a certains qui me disent, mais tu sais, il faut quand même, il faut être un peu plus civilisé, un peu plus, je dis, mais je suis comme ça. Mais si je voulais être civilisé, je ne serais pas ici. Mais Dieu ne m'a pas demandé d'être autre chose que d'être ce que je suis. Je n'aime pas le chocolat et tout le reste des choses. Ce n'était pas mon niveau au niveau de l'Afrique. C'est des gens d'un certain niveau qui avaient accès à ces choses. Mais moi, la banane, au village, je peux l'accueillir n'importe où. Ouais, donc on reste comme ça, on n'a rien à essayer de forcer, d'essayer d'être comme les autres. Non, soyons nous-mêmes. Je n'ai même pas besoin de parler en français d'européen. Soyons simples, frères et sœurs. Mais c'est Dieu qui fait la différence. C'est lui. Donc, nous sommes transportés des ténèbres à la lumière. Nous sommes des fils de gens qui étaient fils du diable, dominé par le diable. Aujourd'hui, on est fils de Dieu. On est héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Donc, si on comprend cela, notre mentalité doit changer. On doit rêver à autre chose, penser autrement, vivre autre chose. Et Dieu est glorifié quand c'est ainsi. C'est pourquoi la Bible dit qu'il faut un changement de mentalité. Donc, parlant donc de l'exemple de Jésus, on a vu qu'il a exercé son autorité sur les maladies. Vous aussi, si vous êtes vraiment conscient d'être enfant de Dieu, à un moment donné, vous pouvez vous dire, trop c'est trop. Toi là, démon, tu quittes ici là, tu t'en vas. Mais si le démon voit que chaque fois que tu es menacé, ah, il faut que j'appelle le pasteur. Ah oui, bon, comme le pasteur n'est pas omniprésent, j'attends lorsqu'il sera au Maroc. Comme ça, on va bien régler les problèmes. Parce que tu ne vas pas le joindre. Oui, donc, Dieu t'a donné le pouvoir de chasser les démons. Et Jésus dit, vous chasserez, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Premier miracle, vous chasserez les démons. Dans Marc chapitre 16, verset 17, vous chasserez. Il ne faut pas négocier avec. Pas comme certains disent, mais toi tu t'appelles comment, démon? Ah, mais je suis ton cousin qui habite ici. Non, pas question de demander. Il dit, vous chassez et il doit vous obéir. Vous chasserez les démons. Donc Jésus a exercé son autorité aussi sur les démons, comme Matthieu chapitre 17, verset 18, nous le montre. Là, il y a un démon assez coriace qui a terrorisé un peu les apôtres. Et nous allons voir. Mais Jésus arrive, il parle sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Les apôtres demandent, mais pourquoi nous, on n'a pas pu chasser ces démons? Il y a un problème. Toi, tu viens, tu chasses, hein, en quelques minutes, il est parti. Mais nous, on est là, on se fatigue depuis. Mais ton secret, c'est quoi? Et Jésus va leur donner son secret, jeûner et prier, et croire. Il faut apprendre à manger moins, à sauter un peu quelques repas. Je pense que cette recette-là ne va pas tellement convenir à certaines personnes. Que s'il faut chasser les démons, il faut jeûner. Certains vont dire, bon, on n'est pas obligé de les chasser. Si la condition, c'est jeûner, ah ben, laissons faire. Non, mais Jésus dit, il y a un secret. Vous ne pouvez pas, juste parce que vous dites, vous êtes chrétien, tu viens, tu chasses. Il faut avoir la foi, c'est la condition, l'une des conditions qu'il leur pose. Et on va voir ça tout de suite. Voyez, donc il a exercé son autorité sur les démons. Là où les autres n'ont pas réussi, lui il a réussi. Mais il a en secret et il va le donner aux apôtres. Et Jésus a aussi exercé son autorité même sur les forces de la nature. Les vents, par exemple. Et on peut lire ce texte de Marc, chapitre 4, verset 39, où il est écrit que s'étant réveillé, Marc 4, 39, il menaça le vent. Là encore, il menace le vent. Il ne dit pas, « Oh, Père très haut, vraiment, aie pitié de nous. On va périr. Viens arrêter ce vent. » Non. Il dit au vent de s'arrêter parce que à la base, Dieu avait dit à l'homme de dominer sur toutes choses. Tu dois pouvoir commander au vent de s'arrêter. Et ça devrait marcher. Le vent te regarde bien, dit oui, lui là. Ah, il y a Dieu derrière. Bon, ok, c'est bon. Je vais exécuter. Mais si le vent te regarde et voit que Dieu n'est pas avec toi et tu lui donnes quand même un ordre, le vent ne va pas t'obéir. Donc, Jésus a menacé les vents et les vents se sont tus. Le vent, c'est ça, et il y eut un grand calme. Maintenant, on va voir qu'il y a quand même des conditions pour vraiment exercer l'autorité. Ce n'est pas n'importe quel chrétien baptisé qui va simplement se lever et menacer les vents. Donc, nous allons voir que dans la Bible, dans Ésaïe 59, c'est un texte que nous connaissons très bien. On sait que Dieu dit, ma main n'est pas courte pour sauver, ni mon oreille dure pour entendre, mais il y a un problème avec vous. C'est votre péché. Donc, le péché crée une séparation avec Dieu et tant qu'on est séparé de Dieu, rien ne peut marcher. Donc, on a besoin de régler déjà ce problème-là à la base, avant d'exercer l'autorité. Donc, on doit comprendre que pour exercer l'autorité, première chose, il faut la consécration. La consécration, On doit être vraiment consacré à Dieu. Sinon, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Quand on parle, les démons ou n'importe quelle situation ne peut céder si on vit dans le désordre. Donc, on a besoin d'être consacré. Et on va lire pour cela Romains chapitre 12, verset 1. Romains chapitre 12, verset 1. Le verset 1 dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour vous un culte agréable ou raisonnable. » Donc, il est dit ici de consacrer, parce que quand on lit ce verset dans Louis II 1910, on ne peut pas bien comprendre. Il dit seulement, je vous exhorte à consacrer vos corps. Mais la Bible réclame la consécration de notre être tout entier. Tout notre être, corps, âme, esprit, toutes nos forces, toutes nos facultés doivent être consacrées à Dieu, c'est-à-dire mises à son service. Ça nous pousse à la sanctification parce que on met tout au service de Dieu. Mes pensées, mes projets et tout doit être mis au service de Dieu. Ça sous-entend aussi que nous devons nous détacher un peu des choses de cette vie qui nous retiennent dans la captivité. Vous savez que dans Marc chapitre 11, qui est un chapitre qu'on va voir tout à l'heure en quelques minutes, le texte commence par un récit qui avait dans un village un ânon qui était attaché. Et Jésus, il veut entrer à Jérusalem et dit à ses disciples, allez dans ce village. Vous allez trouver un ânon attaché. Premièrement, il dit, personne n'est jamais monté sur cet ânon. Détachez-le. Et les maîtres vont vous dire, pourquoi faites-vous cela? Dites, le maître en a besoin. On lit ce texte, ça ne nous dit pas grand-chose, en fait. Mais cet ânon, c'est comme vous et moi. On veut servir Dieu, mais on est quand même on a des attaches qui nous empêchent. L'ânon est là, bloqué dans son village. Il ne sert à rien. En fait, il est attaché. Personne ne s'en sert. Et on ne lui donne même pas la liberté. Il est là. On ne sait pas à quoi il sert. Personne n'est jamais monté dessus. Et il ne peut rien faire. Il ne sert à rien vraiment. C'est comme cela que nous sommes dans ce monde. Dieu a des services à faire avec nous, beaucoup de choses. Mais on a des attaches, la vie professionnelle, la culture, et telle autre chose, telle ambition, et telle autre chose. C'est trop d'attaches. L'un des apôtres les plus utilisés s'appelle Paul, mais il n'avait pas d'attache, même pas de femme, pas d'enfant, rien du tout. Libre comme le vent, et Dieu peut s'en servir là où il veut. S'il lui dit, tu vas à Antioche, il ne va pas dire, mais qu'est-ce que je vais faire de ma femme? Et les enfants, est-ce qu'ils ont à l'école? Et mon travail, je dois demander les vacances à mon patron. Ouais. Donc, il n'avait pas d'attache. C'est comme cet ânon. L'ânon est attaché, il ne peut pas servir. Jésus dit, détachez, pour qu'il me soit utile, détachez l'ânon. Nous avons besoin, pour consacrer toi à Dieu, d'être moins attaché aux choses de cette vie. Sinon, on ne peut pas. Dieu ne peut pas nous dire, comme Abraham, va-t'en d'ici vers une destination inconnue. Je ne sais pas si déjà la femme moderne va accepter cela. Le mari vient, tu sais, oh chérie, j'ai pris le Seigneur, il m'a parlé. De quoi? Ah ben, il faut partir d'ici. Mais pour aller où? Ah ben, je ne sais pas. Dieu s'est révélé à moi. Il dit, on va partir quelque part, faisons les bagages. Je ne pense pas que les femmes françaises, les femmes de la civilisée là vont suivre. Elle va dire, attends, demande bien à ton Dieu. Où est-ce qu'on doit partir? Est-ce que tu es sûr que Dieu t'a parlé? Est-ce que, surtout s'il y a un grand patrimoine derrière, mais qu'est-ce qu'on va faire de notre maison, quoi? Et le crédit en banque. Et Abraham n'était pas tellement dépendant de ces choses. Quand Dieu lui dit, fais ceci, il fait. Sacrifie-moi ton enfant. Il dit, il n'y a pas de problème, Seigneur. Et bien, on va faire cela. Il n'était pas attaché. Mais aujourd'hui, pour que Dieu nous utilise, et quand il nous dit de nous lui consacrer tout, même nos enfants, on va commencer par dire, mais Seigneur, je veux bien te servir, mais Et qu'est-ce qu'il avait fait des enfants là? Jean s'est retrouvé à Patmos complètement coupé du monde. Mais nous, on va dire, mais cette histoire d'appel de Dieu comme ça à Patmos, on ne comprend pas. Dieu ne, il veut bien que je sois là où il y a des gens, pas dans une zone isolée. Mais Dieu a parlé à Philippe d'aller dans un désert. Et il ne lui a pas dit ce qui se passe dans le désert. Il dit, approche, va là, dans le désert, là, avance encore. Tu vois un char là-bas, approche du char. Mais Philippe, il avance sans aucun problème. Mais je pense que nous autres, on se dirait, mais en plus, un char en plein désert, on ne sait pas. C'est quand même risqué, Seigneur. Est-ce que c'est le diable qui est en train de vouloir m'entraîner pour aller mourir? Oui, on va avoir des idées. Donc, tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'on est, comme cet anon, on a des attaches. Et on ne peut pas servir la cause du maître dans ces conditions. Il faut être un peu détaché. Ce n'est pas qu'on n'a pas de projet. On a des projets, on a des maisons, on a des enfants. Mais c'est dire, si Dieu me demandait de faire quelque chose, ni les enfants, ni rien ne devrait me retenir. C'est pourquoi Jésus dit, avant d'être mon disciple, vous devez me préférer à vos enfants et à toute chose. Il doit être premier. Donc, c'est un, la consécration est importante. Il y a les gens qui demandent, mais je n'entends pas la voix de Dieu. Dieu, révèle-moi ta volonté, mais il ne va pas la révéler. Parce que pour Dieu, s'il te révèle ce qu'il veut réellement et que tu t'obstines à ne pas le faire, là, tu auras plus de problèmes. Donc, dans sa miséricorde, Dieu voyant qu'on a des attaches, il ne veut pas tout nous bousculer. Il ne va pas nous demander des choses qu'on sait que ça ne va pas marcher. Il y a peu de gens qui pourraient faire comme Abraham. Dieu te dit, va de ta maison vers une destination, de faire les premiers pas dehors sans même savoir où on va. Il y a peu de gens d'entre nous qui pourraient faire cela. On aurait au moins besoin de quelques détails. On va dire, bon, chérie, on va encore prier. On va prier que Dieu précise un peu les choses. Mais la raison, c'est qu'on s'est dit, non, ça nous donne l'occasion de rester un peu dans notre confort, quoi. Bon, tant que Dieu ne se révèle pas, on aura comme prétexte que Dieu ne nous a pas dit. On sait qu'on est appelé, mais il ne nous a pas encore dit où on doit aller. C'est pourquoi on est là. Non, nous devrions être détachés et consacrer tout à Dieu. Il veut qu'on lui consacre toutes nos forces, toutes nos facultés, que tout soit mis à son service. Nos enfants, notre argent, notre patrimoine. Et il y a des tas de choses. Et j'ai vu, par exemple, à La Rochelle, il y a certaines personnes à l'église qui me disent, mais frère, tu es trop dépensier. Je dis, mais il n'y a pas de problème. Je dis, mais où est le problème? Je dis, oui, mais tu es dépensier. Je dis, mais pour moi, je crois que Dieu a l'or et l'argent. Mais pourquoi je vais avoir 1000 euros sur le compte si à côté de moi quelqu'un meurt de faim et je vais lui dire quoi à Dieu? Seigneur, il faut que j'aie l'épargne. Ah, mais non. Mais la personne va mourir parce que tu vas avoir l'épargne? Non, il faut dépenser. Dieu donne la semence au semeur et j'ai dit cela à ce frère que, tu sais, plus tu donnes, plus Dieu te donne. Si tu ne veux rien semer, pourquoi tu lui demandes la semence? Mais certaines personnes pensent que, mais c'est pas juste là. Parce que Dieu, il donne à quelqu'un qui ne sait même pas épargner, économiser, faire des projets. Mais Dieu n'a pas besoin que l'argent dorme sur le compte. Il veut que ça aide des causes. Nous sommes des gestionnaires seulement. Il te donne un montant. Il dit, tu vois ici, chaque besoin identifié, on doit collaborer avec Dieu pour une solution. Mais comme il sait que nous, on veut épargner, il dit, toi, tu veux épargner. Moi, je n'ai pas de temps à épargner. Le temps est court. Je veux aider les gens qui sont dans le besoin. Ouais, et Jésus va dire, j'avais faim et vous m'avez donné à manger. Il ne va pas dire, j'avais faim, gloire à Dieu, tu as épargné. Mais non, j'avais faim et tu as agi. Donc, toutes les fois que tu as fait ceci, c'est à moi que tu l'as fait. Et ça, c'est merveilleux. Donc, c'est important de ne pas être trop attaché ni à l'argent, ni à sa fortune, ni même à sa culture. Nous, on fonctionne toujours comme ça. La femme samaritaine dit à Jésus, nos pères ont adoré ici, mais Jésus dit, tu sais, la vraie adoration, c'est en esprit en vérité. Ce n'est ni la manière de tes pères, ni la manière des juifs chez moi. Donc, les choses sont autrement. C'est Dieu qui décide de comment il doit être adoré. Donc, frères et sœurs, la première des choses, si on veut vraiment que Dieu se révèle à nous, qu'il fasse des choses qui sortent de l'ordinaire, comme le message que j'ai reçu de la sœur qui me disait de témoigner, et c'est pourquoi je vous témoigne cela. Parce que j'ai vu des choses que Dieu fait. Parce qu'il y a 2-3 ans, il y avait pas mal de problèmes financiers. Et l'autre jour, j'ai mon banquier qui m'a appelé, qui m'a dit, c'est quand même étonnant avec vous. Il dit, mais qu'est-ce qui est étonnant? Il dit, parce que votre compte a des mouvements inhabituels. Tantôt, moins 500, vous êtes à découvert. Le lendemain, vous êtes à plus 100. L'autre jour, vous êtes à plus 50. L'autre fois, encore moins 200. Et ça échange comme ça. Et vous faites des dépenses comme ça. Et maintenant, depuis un an, ce qui est étonnant, c'est que malgré que vous dépensez, votre livret A a atteint le maximum autorisé en France pour un livret A. Et ce n'est pas logique. Vous avez un salaire de 1170 €. Et puis, je dis voilà. Ça, c'est ce que Dieu fait, frères et sœurs. C'est pourquoi je vous partage. Ce que je vous partage là, c'est des choses que Dieu m'a quand même enseignées. Et j'ai vu que Dieu veut faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Que même le banquier dit non, ce n'est pas quand même logique. 1200. Et la personne a découvert il y a un an. Et malgré que la personne fait tant de dépenses, et son livret a atteint le maximum de 22 000 € autorisé pour un livret A, pour un pasteur, qui n'a pas un gros salaire. Mais c'est ce que je suis en train de vous partager là, en fait, qui fait la différence. L'or et l'argent appartiennent à Dieu, nous aimons le dire. Mais comme on ne croit pas, on va faire, oui, bon, comme j'ai eu mes 500 là, il faut bien les serrer dans mon compte. Je ne peux pas dépenser même pas la dîme qu'on me demande là. Parce que là, c'est l'assurance qu'en cas de problème, c'est le plan B. Et puis, je me rabats sur... Non, Dieu n'a pas besoin qu'on dépende du plan B. Il veut simplement qu'on dépende de lui. S'il te dit, donne, que ton cœur ne donne pas à regret, donne. Et Dieu va te montrer qu'il est bel et bien Dieu. Vous voyez, donc c'est un point important. Consacrez-toi à Dieu. Notre famille, nos pensées, nos projets, tout ça, ça ne doit pas constituer des attaches qui nous attirent sur terre comme la pesanteur. Lorsque Dieu veut qu'on prenne de l'envol, ça nous retient par terre. Donc ne soyons pas trop dépendants ni de l'argent, ni du patrimoine, ni de la famille, ni de rien de tout ça. Laissons Dieu avoir la liberté de nous bouger comme il a fait de Paul. Il peut lui dire, va de tel endroit à tel autre endroit. Pour Paul, il n'y a pas trop de choses à sauver. Et Jésus, d'ailleurs, il n'avait même pas de domicile. Nous, on se plaint, ah, je n'ai qu'un HLM. C'est vraiment pas sérieux. Un vrai enfant du royaume. Oui, mais Jésus n'avait même pas le HLM. Il n'avait pas le HLM. Mais il parlait avec fierté de son Dieu. Pas de HLM. Mais chaque fois qu'il avait un besoin, il veut nourrir 5000 personnes. Comment quelqu'un qui n'a pas de salaire va nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants? Ah ben, à ce moment-là, son héritage du ciel débloque le nécessaire, quoi. À ce moment-là précis, et il peut les nourrir. Il nourrit les 12 apôtres sans aucun problème. Sans salaire et sans maison, il trouve toujours où dormir. Il trouve toujours de quoi leur donner à manger. C'est ce que Dieu veut. Donc le point, la condition première, c'est la consécration. Tout est livré à Dieu et on va marcher dans la sanctification, nos pensées. Notre être, tout doit être purifié. Et quand Dieu voit cela, on n'a pas d'attache spécifique. Tout lui est consacré. Il est libre de nous envoyer là où il veut. Il est libre de réclamer une portion de notre budget, de notre salaire, de notre argent, sans qu'on lui crée trop d'ennuis. À ce moment-là, on est déjà en train d'aller vers le miraculeux. Dieu est prêt de bouger. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est la foi. Nous voyons que dans Matthieu au chapitre 17, nous avons lu ce récit où les disciples n'ont pas pu chasser un démon. Mais Jésus répond en disant, vous n'avez pas pu chasser ces démons à cause de votre incrédulité. Parce qu'ils disent, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser dans Matthieu chapitre 17, verset 19 à 20? Pourquoi on n'a pas pu chasser? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible si vous aviez la foi. Donc si on n'est pas consacré à Dieu, en marchant dans la sanctification, en priant, en étant avec lui, on aura des difficultés à avoir la foi, puisque la foi fait partie de la nature de Dieu. Et quand on est consacré, on est participant de la nature divine, comme Pierre nous dit, à ce moment, on n'a pas la nature de Dieu, qui est une nature de foi. On est comme Dieu, on peut parler avec la même foi, avec la même liberté. Dieu dit que la lumière soit, elle fut. Dieu appelle à l'existence des choses comme si elles existaient. Jésus peut appeler Lazare qui est mort et enterré. Lazare sort comme s'il était vivant, comme si vous appeliez un camarade qui est à côté. Voyez? Donc, la foi vous permet de voir les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. D'accéder à ce qui, humainement parlant, n'est pas possible aux humains d'avoir accès. Donc, Jésus dit, si vous aviez la foi, vous pourriez faire cela. Et il reprend le même discours lorsque, dans Marc chapitre 11, il a maudit un figuier qui a séché. Il dit à ses disciples, dans Marc chapitre 11, verset 22, « Ayez foi en Dieu ». Il enchaîne au verset 23 en disant, « Si vous avez la foi, vous pourriez dire à cette montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi dans la mer. Et si vous ne doutez pas, vous allez voir que la chose va arriver. » On peut commander aussi à la nature, à la montagne, mais on va dire, oh, c'est peut-être une montagne spirituelle. Non, une vraie montagne. Il a maudit un vrai figuier physique qu'on peut voir, un vrai arbre. Et les disciples ont vu. Il a dit, ce que j'ai fait là, de l'arbre, vous pouvez le faire, même d'une montagne entière. Elle va se soulever. Mais nous chantons, Jésus, c'est lui qui soulève les montagnes. Mais nous aussi, avec notre foi, on peut. Il a la puissance pour soulever les montagnes, mais nous aussi. Donc, on aura un dernier point, mais juste pour dire cela, que la foi est indispensable si on veut vraiment vivre le miraculeux avec Dieu. Parce que là, aujourd'hui, les chrétiens, on vit selon l'évidence des sens. Tous les calculs, c'est selon le salaire, tout est prévisible. Mais la vie d'un chrétien doit être imprévisible. En fait, on doit, Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront. Donc, on est accompagné par une vie miracle, dont les miracles doivent s'enchaîner. On ne sait jamais, on ne peut pas anticiper, prévoir comment un chrétien va se sortir de telle situation ou comment il va vivre demain. Donc, c'est cela que Dieu veut. C'est pourquoi je prends ce temps de vous partager cela. C'est vraiment le résumé des choses que j'ai comprises et que j'ai vu qu'en fait, Dieu est prêt à faire des choses même que personne ne pourrait croire. Et d'ailleurs, je vais vous donner un témoignage aussi brièvement là-dessus, c'est que à un moment donné, quand j'avais les découvert, alors j'ai eu l'entretien avec le bishop Christian Merlot, et il me dit, frère, mais tu n'as pas donné ta dîme. Je lui ai dit, je ne donne pas la dîme depuis quelque temps là. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais parce que financièrement, je n'ai pas assez d'argent pour donner la dîme. Il dit, comment Dieu va te bénir? J'ai dit, je suis justement en train de vouloir tester ce point-là, savoir si Dieu ne me bénit que parce que je donne la dîme, ou s'il faut appliquer les principes que je suis en train d'apprendre. Il me dit, tu me tiens au courant, si jamais ça change. Et ça fait à peine 2 mois, je lui ai dit, ah, ben Dieu a fait quelque chose d'étonnant. Déjà, il a vu que j'ai donné la dîme, et que j'ai donné plus que les autres membres, enfin, l'équivalent de ce que tous les autres membres donnaient, quoi. Donc, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais Dieu m'a confirmé que ce n'est pas, on donne la dîme, ce n'est pas pour réclamer les bénédictions de Dieu. On donne la dîme parce que Dieu a déjà résolu nos problèmes. Nous avons des finances et on lui donne le 10% pour qu'il aide aussi d'autres, qu'il aide l'Église et d'autres personnes. Mais on ne peut pas demander à quelqu'un qui est déjà dans le découvert de donner la dîme de son découvert. C'est compliquer encore plus la tâche de la personne. Moi, je suis de l'avis que si un frère ou une sœur est dans les découverts, nous devons tous cotiser pour qu'il sorte du découvert, qu'il ait les pieds sur terre. Comme ça, il va donner aussi. Il aurait vu comment l'argent de l'Église sert à sortir les gens des problèmes. Il n'aura plus, il n'y a plus à sermonner celui-là. Il a compris. Ah oui, donc quand les gens de l'Église ont de l'argent, dès qu'on est dans le rouge, ça peut nous servir. Mais si l'Église est absente quand on est dans le rouge, si personne se manifeste et qu'on vous dit, frère, donne, il faut donner pour que Dieu te bénisse. Mais la dîme du découvert, ça donne encore plus de découvert. Plus. Et est-ce qu'il faut attendre que l'huissier vienne sceller même le HLM? Non. Il faut régler les choses sagement. Donc le dernier point qu'on va voir après la foi, c'est la prière. Parce que c'est important d'avoir une vie de prière régulière. de prier, comme Jésus dit dans Marc chapitre 11, verset 24, il dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Donc notre prière doit être alimentée par une foi sans faille. On demande, on sait que on est citoyen du royaume de Dieu, on est fils du royaume de Dieu, et Dieu va débloquer les choses qu'on lui a demandées, et on est tranquille. Comme lorsque vous faites une demande à votre banque et vous savez qu'il y a la provision, vous dites à la banque, je donne ordre de virer 50 euros et vous savez que vous avez l'argent sur le compte. Vous n'avez pas à dire, mais il faut que je surveille, je ne sais pas, est-ce que ça va marcher, est-ce que... Non. Et quand on est dans le magasin et qu'on met sa carte pour payer quelque chose, si on est sûr d'avoir quelque chose, mais on n'a pas de doute, on dit, bon, on n'est pas stressé, est-ce que ça va passer, est-ce que ça ne va pas passer? Par contre, quand on est dans le rouge, qu'on sait que parfois, avant même que ma carte soit utilisée, ben les créanciers ont tout récupéré, là on aura les doutes. Mais nous, on n'est pas dans le rouge au ciel, il n'y a pas de crise au ciel. Nous sommes citoyens du ciel, notre cité à nous est dans les cieux, disent les apôtres. Nous devrions avoir la confiance. On dit à Dieu, voilà, en tant que ton fils, aujourd'hui je te demande de telles choses. Il dit, voilà, croyez que vous l'avez reçu. C'est demandé, c'est enregistré au ciel et c'est accordé. Donc, c'est en délai, le temps que les actions soient mises en place. Et cette foi-là, nous devions l'avoir. C'est vraiment une foi de petit enfant. Un enfant demande, papa, je vais te donner. Si papa dit, oui, je vais te donner. Et l'enfant est content. Il va dire à ses camarades, papa va me donner une bicyclette. Ah, mais ça, c'est bien ça. Mais nous, on va toujours dire, bon, attendons de voir. Mais on ne sait jamais. Dieu au ciel, il fait ce qu'il veut. J'espère qu'il voudrait bien. Non, on doit dire, comme Dieu veut qu'on dise, nous avons demandé avec foi, nous croyons que nous l'avons reçu et nous le verrons. Donc, changeons de mentalité. Ayons une mentalité de vainqueur, une mentalité de croyant. Et nous sommes des croyants. Pourquoi les croyants devraient exceller dans le doute? Non, notre raison d'être, c'est de croire. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, et allons pour remporter de grandes victoires avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.